Chers amis, bonjour, merci de nous écouter sur le 90.7 RCN Radio Caraïbes Nancy et puis www.rcn-radio.org. Ça, c'est pour sur Internet, parce que nous avons un site, et je vous le dis à chaque fois, un site qui est bien. Oh oui, on le doit à notre ami Raphaël Porra, qui est aussi notre technicien ce soir. Et bien, Raphaël et moi, nous sommes heureux parce que ce soir, nous avons une invitée qui vient nous voir souvent pour donner ses coups de cœur et ses coups de griffe. Mais ce soir, c'est l'invité principal, number one, comme on dit en français. C'est Ariane Perdigal. Bonjour Ariane.
Oui, bonjour Yves, bonjour Raphaël.
Merci Ariane. Alors, j'ai invité Ariane ce soir parce que j'avais envie qu'on vous donne comme ça un certain nombre de coups de cœur, de coups de gueule. C'est les périodes des fêtes, périodes des cadeaux. Et puis, faire cadeau d'un livre, c'est toujours une bonne chose.
Ah oui, moi j'adore faire ça. Bah, en toute occasion d'ailleurs, même quand on va dîner chez quelqu'un, il faut offrir des livres. C'est en général ça fait plaisir. C'est puis ça permet de partager ses expériences. Enfin c'est et pour Noël c'est une très bonne idée d'offrir des livres. Donc on va vous donner quelques suggestions.
Des idées, oui. D'abord, si tu me permets, je voudrais simplement saluer comme ça la mémoire d'un monsieur qui a fait beaucoup pour le livre. C'est un monsieur qui est très peu connu du grand public et pourtant, il s'appelle Monsieur Hubert Nissen. Monsieur Hubert Nissen, qui est d'origine norvégienne, me semble-t-il,
oui,
je crois.
Et
Monsieur Hubert Nissen a fait souche à planter ses racines du côté d'Avignon, Arles, là-bas. Et il y a quelques années de ça, repris un atelier de cartographie. Il l'a développé et il en a fait une maison d'édition et certainement une de nos plus belles maisons d'édition en France à l'heure actuelle. Loin du parisianisme, loin des petites combinations parisiennes, parce que Monsieur Hubert Nissen est le créateur de la maison d'édition Actes Sud. Et Monsieur Nissen, il est parti raconter ses petites histoires et dans un autre monde, je ne sais pas où, derrière un nuage, là-bas, peut-être qu'il a retrouvé ses chers amis écrivains qui eux aussi sont partis je ne sais trop où.
Ah,
donc
oui.
Monsieur Hubert Nissen les a quittés il y a quelques jours, il y a 3 jours. Alors je voudrais simplement, dire que cette émission, elle lui est dédiée. À
oui,
Monsieur Nissen, Acte Sud.
C'est vrai qu'il a fait un travail merveilleux. Hein,
Alors, Acte Sud, sont des gens comme Paul Auster, sont des gens comme Alice Fernet, comme Laurent Godet. Alors, Paul Auster, qui a eu le prix Médicis, Laurent Godet, qui a eu le prix Goncourt Le soleil d'Escorta. Excusez-moi, mais l'écran est trop loin et mes lunettes sont pas assez fortes. Le soleil d'Escorta, il a par exemple des gens comme Nancy Houston, Préfiemina, Camille Läckberg. Tout le monde s'est arraché les bouquins de Camille Läckberg. Et également Stieg Larsson, Cormac McCarthy. Enfin, vraiment que du bon aux éditions Actes Sud. Voilà.
Oui, et très beaux livres en plus.
Mais bon. Pas de crainte, les éditions vont continuer et on aura encore de belles choses. Voilà, ceci étant dit, c'était simplement pour ce petit coup de salut, ce coup de chapeau à un grand monsieur de la littérature. On commence avec des coups de cœur. De quoi nous parles-tu, Ariane? Alors là, attention.
Un coup de cœur, oui.
Elle fourbille ses armes, là.
Oui, alors j'ai envie de commencer par vous parler d'un livre, si vous voulez faire un cadeau, c'est un véritable petit bijou que l'on peut offrir à tout le monde. C'est vraiment, toute personne sensible appréciera ce livre et même en sera dingue. Alors c'est un livre d'un auteur roumain qui s'appelle Camil Petrescu. Donc pour le cas où certains voudraient noter, j'appelle parce que Petrescu, c'est Petrescu, et ça s'appelle « Dernière nuit d'amour, première nuit de guerre ». C'est en fait l'histoire d'un jeune homme qui tombe fou amoureux d'une étudiante et ils vivent une relation d'amour assez passionnelle. Tout ça en Roumanie, donc ils sont assez pauvres, etc.
À quelle époque en Roumanie ?
Dans les années 30, en fait.
Ah oui.
Arrive un héritage. L'héritage change beaucoup de choses dans leur vie, dans leur train de vie. Enfin, surtout dans celui de la jeune fille, qui est devenue sa femme entre-temps. Ils se sont mariés. Et peu à peu, il va la voir s'éloigner de lui, parce qu'elle, elle est sensible à toute une vie de luxe, une vie chatoyante, comme ça. Alors que lui est un intellectuel qui se passe très bien de tout ça, du moment qu'il a ses livres, il est heureux. Donc, petit à petit,
Un asset.
Oui, voilà. Et petit à petit, justement, on va voir leur relation se dégrader, et surtout ses sentiments à lui, la façon dont il voit cette femme lui échapper petit à petit. Et il va vivre en fait cette dernière nuit d'amour qui sera aussi la première la première nuit qu'il vivra lors de son engagement dans les années 30, donc je me trompe, parce que ça va être son engagement dans la Première Guerre mondiale.
Donc, un peu après.
Oui, donc, oui, voilà. Et donc la deuxième partie du livre, c'est cet homme qui se retrouve, voilà, soldat en première ligne. Et en fait, il va décrire ce qu'il a vécu d'après son expérience personnelle. Et c'est pour moi les plus belles pages qui ont été écrites sur la guerre vue par un simple soldat, avec toute son horreur, avec toutes ces... C'est les plus subtiles, les plus fines, les plus émouvantes et les plus touchantes. Tout ça étant vu avec, évidemment, une vision très personnelle, très, très critique, et en même temps, une tendresse pour l'humanité. Enfin... Bon, que ce soit la première partie, donc sur cette histoire d'amour qui peu à peu se délite, ou que ce soit la seconde sur cette vie de soldat, c'est d'une finesse absolument remarquable, c'est extrêmement émouvant, et c'est une écriture d'une élégance extrême tout en étant très sobre. Il n'y a pas de maniérisme, il n'y a pas de... C'est élégant, c'est sobre, enfin c'est... Ce livre, c'est un bijou, c'est la beauté pure, que ce soit dans l'amour, dans la guerre, c'est...
Mais c'est réaliste, c'est vériste. On nous décrit la guerre avec son horreur, les morts, les mutilations, etc.
Voilà, exactement.
Ouais, le sang.
Exactement. Et malgré tout, c'est d'une beauté à couper le souffle. Mais c'est une dénonciation des horreurs de la guerre.
C'est du lyrisme. Non, c'est pas le lyrisme de la guerre.
Absolument pas. Ah non, c'est l'horreur. Au contraire, c'est l'horreur de la guerre. Mais pour moi, ça n'a jamais été aussi bien dit. Mm-hmm. C'est quand on a lu ça, ouais, évidemment, on est plus qu'effondré, mais on est bouleversé. Enfin, moi qui pleure difficilement en lisant un livre, j'avais les larmes aux yeux à la fin.
Comment il s'appelle ce monsieur ?
Donc Camille, alors c'est le prénom, Camil Petrescu, donc Petrescu.
Et c'est son premier roman, non ? Tu as déjà lu autre chose de lui ?
En fait, j'ai lu d'autres choses, mais pour moi, c'est le meilleur. Ouais. C'est vraiment son chef-d'œuvre.
C'est récent, c'est un bouquin récent.
Non, il a été publié dans les années 30, c'est pour ça que je me suis trompée tout à l'heure. L'histoire se situe donc juste avant la guerre, la Première Guerre mondiale. Il a été publié bien après. Et donc ça s'appelle Dernière nuit d'amour, première nuit de guerre.
Et c'est une réédition récente.
Oui,
on le trouve facilement.
On le trouve tout à fait facilement. C'est aux éditions des Sirtes. On peut le commander dans n'importe quelle librairie, sur n'importe quel site internet. C'est très 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 facile à obtenir. Une pure merveille, vraiment. Et je ne vois pas à qui ça peut ne pas plaire. Tout le monde doit être touché par ce livre.
Ariane, alors, elle tombe amoureuse d'un bouquin, comme elle peut tomber en haine d'un bouquin. Elle le déchire comme elle peut se l'accaparer. Extraordinaire. J'aime bien les passions comme ça.
Oui, et alors d'ailleurs, tu m'as dit il y a quelque temps que tu n'étais pas tout à fait d'accord avec moi lorsque j'avais...
Alors, il y a quelques temps, tu as vraiment taillé un costard, mais c'est même le costard trois pièces, quoi, complet, au Lemonov de carrière. Et je ne sais pas s'il faut quand même le traîner aussi bas que ça. Bon, d'accord, c'est peut-être plus un... comment on va dire, la biographie sexuelle de l'auteur plutôt que la biographie de Slemonov, mais on trouve quand même à suivre ce personnage extraordinaire qui est Slemonov, qui a été tout, qui a été un des plus grands oligarques de Russie, qui a mis le doigt dans des affaires les plus sombres.
Qui a été un fasciste de première, un néo-nazi de première.
Qui aujourd'hui est un espèce de politicard bizarroïde.
Qui retourne sa veste.
Oui, c'est ça, oui. Mais bon, c'est pas parce que le personnage est odieux que la facture du récit, elle, est mauvaise. Je trouve que la facture du récit n'est pas si moche que ça.
Ah, non, moi, je n'avais pas du tout critiqué le personnage de Slemonov. Ce que j'avais critiqué, c'était le style de Carrère. Parce que bon, la facture du récit, non, mais... Non, je ne vais pas recommencer.
Je l'ai titillé.
Oui, non, je ne recommencerai pas. Non, mais simplement, c'est affreusement mal écrit. C'est horriblement mal écrit.
Je ne suis pas aussi certain que toi.
Mais il n'a pas de vocabulaire.
Heureusement qu'on n'a pas de caméra de télévision, parce que là, Ariane est en train de me foudroyer du regard. Ses yeux lancent des éclairs. Donc, eh bien, nous lançons un grand concours. Si vous avez vraiment envie de nous dire si vous aimez le Slemonov de Carrière, vous nous téléphonez, vous nous dites j'aime ou j'aime pas, et puis on verra bien.
Ah oui.
Exprimez-vous sur notre forum, exprimez-vous sur nos pages Facebook pour savoir si Slemonov de Carrère est si mauvais ou si bon que ça.
Et n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez normal qu'un auteur qui écrit une biographie parle quasiment autant de lui-même que de son sujet et en profite pour raconter sa petite vie totalement inintéressante de petit bourgeois parisien, fils d'eux, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à abonder dans mon sens.
N'hésitez pas à téléphoner et à nous dire ou à vous exprimer sur nos différents instruments, forum, Facebook, etc. Vous pensez que c'est la présentation d'une image de la Russie qui nous en apprend beaucoup sur ce qu'est la Russie et ce que devient cette Russie depuis quelques années. On va clore le débat là.
Oui, parce que je voulais dire que non, on n'apprend rien du tout. Bah,
allez,
on clôt.
On va faire une première pause musicale. Tu veux bien?
Oui.
Allez. Yeah. Voilà, c'était Alias Poète, quelqu'un bien de chez nous. On s'est calmé pendant le passage de cette chanson. On range les chaises qui nous ont permis de nous taper dessus avec Ariane.
Oui, Yves lâche la poignée de cheveux qu'il m'a arrachée. Il la jette à la poubelle.
Allez, donc exprimez-vous sur Lemonoff. Autre coup de cœur. Ariane.
Oui, autre coup de cœur. Alors, pour changer, alors voilà, quelque chose de plus distrayant, de plus léger. Je cherche mes papiers. Non. De très bien. Je suis en train de le lire actuellement. C'est un livre qui plaira aux gens qui ont envie de lire des choses humoristiques. En fait, ça s'appelle La légende de Pendragon, je ne sais pas s'il faut prononcer ça comme ça, ou de Pendragon, enfin, la légende de Pendragon. C'est un livre, alors cette fois-ci ça a été bien écrit dans les années 30, par un auteur hongrois, mais l'histoire se déroule au Pays de Galles. Et en fait, ce livre, je le trouve assez sensationnel, parce qu'il reprend tous les codes de la littérature fantastique classique, c'est-à-dire qu'on a un château très mystérieux qui se trouve face à, enfin, dans un paysage très dramatique avec des montagnes, des lacs, etc., qui se trouve face à une très haute montagne sur laquelle il y a un donjon abandonné, etc., qui soi-disant est visité par des fantômes. Enfin bon, on reprend tous ces codes-là, mais simplement, ils sont traités avec beaucoup de sens de dérision et d'humour, ce qui n'empêche pas que l'intrigue est très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une intrigue fantastique dont on ne sait pas si elle est réelle ou pas. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des fantômes ou est-ce qu'il s'agit d'une machination. Il y a un complot qui a lieu, qui se met en place, et tout ça est écrit de façon très originale. Alors là non plus, pas de maniérisme, hein, c'est une écriture simple, très agréable à lire, et très original, parce que en fait l'auteur met face à face le flegme anglais, puisque ça se passe au Pays de Galles, mmh. et le tempérament passionné ben, du narrateur qui lui est hongrois et qui du coup a beaucoup de mal à se faire aux réactions vraiment très calmes et très mmh. pragmatiques des Anglais lorsqu'il se passe des événements absolument épouvantables et lui qui pour un rien a tendance à s'enflammer etc. Et du coup c'est vraiment très drôle, c'est à la fois
mais on est dans les paysages gallois, on se promène oui. dans les paysages gallois.
Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est donc en plus c'est un très beau paysage. Enfin, si on est amateur de ce genre de choses, paysage très austère, très des montagnes, des lacs, des landes, des choses comme ça, avec des personnages vraiment très attachants, très particuliers, vraiment pas de banalité dans ce
buveur
livre.
Buveur de bière
Non, pas tant que ça.
Oh, zut,
pas de... Petit défaut, mais j'ai pas fini le livre, alors ça va peut-être venir. Mais des personnages vraiment originaux, on ne sait pas qui sont les méchants, qui sont les bons, on ne sait absolument pas.
Ah, comment il s'appelle ce monsieur hongrois, là
Donc, oui, ce monsieur hongrois s'appelle, attendez que je retrouve, s'appelle Antal Zerp. Alors, je vais aussi épeler le nom, parce que, donc Antal, le prénom, A-N-T-A-L, et Zerp, c'est S-Z-E-R-B. Donc,
ouais.
Donc c'est la légende de Pendragon, P-E-N-D-R-A-G-O-N, et c'est publié chez Alinéa, donc on le trouve partout aussi ce livre. C'est
un gros bouquin.
Non, c'est un petit livre, il doit faire 200 pages.
Ah bon, on peut faire un lot avec le Limonov d'Emmanuel Carrère alors.
Non, j'allais dire, on veut faire un lot avec le livre de Petrescu.
Ah bon, d'accord.
Mais bon. Donc, un petit bouquin, mais vraiment là aussi, tout public et très très agréable à lire. Peut-être pas la plus grande littérature qui soit, mais vraiment de quoi passer un excellent moment.
Très bien. Les prix, est-ce que tu as lu les prix ?
Non.
Comment non ?
Non, mais c'est d'une manière générale, je trouve que les prix sont attribués aux pires livres qui soient publiés.
Non, quand même pas.
Pas toujours.
Bon, alors, on revient sur Limonov ? Non, Limonov, non.
Non.
Alors, le Goncourt des lycéens est toujours un excellent cru.
Ah oui, ah, ça c'est vrai, oui.
Du domaine des murmures de Carole Martinez. Notre amie Marie-Christine, il y a quelques semaines, nous en avait parlé. C'est un très, 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 très beau bouquin. Il est chez Gallimard, excuse-moi. Hein, je sais que tu as une dent contre Gallimard. il est donc chez Gallimard et on est en 1180, par là. Et une jeune femme va refuser la condition qui lui est faite par ses parents et s'emmurer. S'enfermer dans une petite chambre qu'on pourrait qualifier de monacale. Et il va lui arriver un certain nombre de choses et elle va, de cet enfermement, devenir quelqu'un qui compte et qui va donner des avis sur la vie de la société qui l'entoure. Un très très beau bouquin, Carole Martinez, du domaine des murmures, et c'est chez Gallimard. Je te le recommande.
Je vais essayer de te faire confiance.
Ah. Tu n'as pas lu de prix.
Non.
Tu n'as pas
non.
lu Le Sang Chalandon.
Ben non.
Retour à Killibegs, oui, je dis bien. Alors, là aussi, je pense que c'est un bon cru. Donc, c'est le prix de l'Académie française. Et Sorge Chalandon, il laboure toujours le même terrain, si je puis dire, puisqu'on se retrouve en Irlande, on se retrouve dans cette période ambiguë de la guerre entre les autonomistes irlandais, les catholiques, les protestants, l'IRA, etc. Et comme il nous avait fait découvrir dans un précédent roman un personnage, Tyrone Meehan, qui en fait va trahir. Et là, on va aller plus loin avec ce Tyrone Meehan et on va comprendre pourquoi.
Ah, mais ça, je prends d'office parce que.
Serge Chalandon.
Ah oui. Là, le thème me paraît très, très intéressant.
Voilà. Oh. Alors, c'est à ton tour. C'est comme au ping-pong ou au tennis.
D'accord.
Allez, un petit, et puis après on fait une pause musicale.
Ok, alors un tout petit, un tout petit livre à 6 euros, donc à ajouter à votre lot. Vous allez faire plein de cadeaux.
Voilà.
Donc encore un nom compliqué.
Une petite faveur retour avec le Limonov.
Non mais décidément, Yves est obstiné. Hein. Enfin moi aussi, donc surtout abondez dans mon sens hein, quand vous écrirez sur le site et quand vous nous téléphonerez. Donc alors Vladimir Odoïevski, une saison à Venise. C'est en fait une grande nouvelle qui est publiée chez Payot Rivage, donc c'est vraiment un tout petit livre. Et là aussi, une petite merveille. Alors le thème, c'est l'histoire d'un petit garçon, Marek, à qui sa mère avait promis d'aller passer des vacances à Venise. Malheureusement, on est en 1939, donc la guerre est déclarée. Voilà, la guerre éclate. Donc Marek va finalement, au lieu d'aller à Venise, passer l'été à la campagne, en Pologne. Hein, l'auteur est polonais. Et grâce à l'imagination de cet enfant et à une fuite d'eau très bienvenue dans la cave, finalement, toute la famille va réussir à inventer une certaine forme de pseudo vacances sur un canal qui se trouve dans cette cave. Et en fait, l'auteur va réussir à lier tout un monde onirique, tout un monde de rêves enfantins à la réalité, qui est la réalité évidemment très dure de ce début de guerre. Particulièrement difficile en Pologne. Donc un mélange de réalisme et d'onirisme avec toute l'innocence de l'enfance, avec toute la fausse insouciance aussi de l'enfance. Donc beaucoup de grâce, de poésie, de beauté. Enfin, voilà, un petit livre, une grande nouvelle, mais à mon avis de la très grande littérature.
Alors ce livre, on le doit à...
Ah, donc à Vladimir Odoïevski. Alors j'appelle Odoïevski, une saison à Venise, et à mon avis ça vous donnera envie
c'est
de découvrir.
Qui, c'est l'éditeur.
C'est chez Payot.
Oui, chez Payot, tu l'as dit.
Chez Payot, voilà. Ouais. Ça vous donnera sûrement envie de découvrir le reste de l'œuvre de cet auteur, un auteur contemporain.
Mais tu aimes la difficulté.
En ce qui concerne les noms des auteurs,
oui, parce qu'il n'y a pas de Dupont ni de Martin.
Non, non, non.
Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle. C'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin. Et quand tu voudrais lui dire, tu n'as pas d'amour pour elle. Elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés et une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire. Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets, les fleurs. Dans les algues, il y a les rêves des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça, toujours. Et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant, tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés, une blessure étrange dans le cœur.
Allez, on continue donc notre petite promenade aujourd'hui, puisque dans Marque-Page, avec ma copine Ariane, eh bien, on a décidé, elle est mon invitée déjà pour commencer, et on a décidé, chers amis, de vous donner quelques, disons, nos petits coups de cœur comme ça, ou nos coups de gueule en matière de livres. Livres que vous pouvez vous offrir à votre copain, votre conjoint, votre conjointe, votre copine, enfin, etc. Vos enfants, le papa, la maman.
Oui, il faut faire lire tout le monde.
Un livre, ça fait toujours plaisir. Même ceux qui n'ont plus l'habitude de lire, eh ben, peut-être que ça peut leur donner de nouveau l'habitude de lire. Mmh. Et lire, c'est merveilleux parce que c'est beaucoup plus beau que la télévision. Beaucoup plus beau. Vous lisez en panorama, en cinémascope, en technicolor, c'est extraordinaire. Et puis vous faites votre petit casting vous-même en ce qui concerne la distribution des rôles quand vous lisez. Tiens, moi j'ai envie de recommander à nos amis un livre que j'ai pas tout à fait fini, que je suis en train de lire en ce moment. Et je m'aperçois que l'auteur, l'écrivaine, s'appelle Ariane Perdigal. Dis donc, Ariane, qu'est-ce qui t'arrive là?
Je n'y attendais pas du tout à ça. Là, tu me prends de court.
Ariane Perdigal, qui vient de sortir le numéro 2 des aventures de Charles, Charles II, les ailes rouges. Mmh. Alors, qu'est-ce qui t'arrive là, Ariane?
Alors, ce qui m'arrive, c'est que, en fait, pas mal de lecteurs de Charles m'ont demandé une suite. C'est-à-dire que, apparemment, les gens se sont attachés à Charles et aux autres personnages qui l'environnent et avaient envie de savoir ce qu'il devenait. Donc, je me suis dit, bon, une suite, d'accord, mais je vais quand même essayer de changer un peu de style. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a qu'une seule intrigue, qui est réellement sombre. J'ai fait un peu progresser Charles, bon, qui reste le même anti-héros
il
atypique.
Il est moins cucu que dans les premiers...
Voilà.
Il a mûri, quoi.
Voilà.
C'est peut-être aussi sa copine.
C'est l'influence de Catherine qui
Catherine
le prend en main.
Catou.
Qui le prend en main. Donc du coup, il ne s'évanouit plus à la moindre émotion. Il arrive à faire face aux choses, quand même.
Mais il a une belle famille, dis donc, ouais.
Oui, gratiné.
Ah, c'est pas piqué des hannetons. Hein.
Voilà. L'intrigue se déroule dans sa belle famille. Mmh. En fait, bon, c'est une intrigue, on va dire, une intrigue de policier psychologique. Mmh. Et le principe de base reste celui de Charles I, c'est-à-dire que je mêle une intrigue policière avec des rebondissements, avec du suspense, etc., à des passages humoristiques. Mmh. Pour ça, j'ai notamment convoqué de nouveaux personnages, notamment le beau-frère de Charles qui, d'après les retours que j'ai eus, fait rire beaucoup de monde. Mmh. Donc,
RN.
Oui, voilà, RN. Oui, finalement, tu l'as pas mal avancé, ce livre.
RN.
Voilà, donc en fait, il y a réellement...
RN, René...
Raymond Noël.
Raymond Noël, oui, il faut s'appeler Raymond Noël, quoi.
Ouais, je trouvais ça très simple. J'ai dit que j'étais snob hein, tout à l'heure, donc je le prouve. Ouais. Mais donc Raymond Noël Pulvéric, qui est un personnage, lui, insouciant et très drôle, je pense. Enfin, j'espère très drôle. Et donc, il y a une réelle anxiété. Il y a vraiment l'intrigue est sombre.
Parce qu'il se passe des trucs la belle maison de la belle famille.
Voilà, un manoir d'ailleurs plutôt sinistre. Ça se passe dans un manoir assez délabré, assez sinistre, habité par un homme qui est le grand-père donc de Catherine, qui est un homme apparemment fondamentalement mauvais et qui va prendre Charles pour confident, lui permettre de lire progressivement, donc on va découvrir ça petit à petit au cours de la lecture, son journal intime, un journal intime qu'il a écrit dans sa jeunesse. Mmh. Et parallèlement à ça, Charles va subir une série d'attentats. Il va s'apercevoir qu'on cherche à l'éliminer. Et donc, il va falloir qu'il essaye de voir s'il y a un lien entre le fait qu'il lise ce journal, le contenu du journal et le fait qu'on veuille attenter à sa vie. Donc c'est assez noir, mais avec malgré tout une écriture qui, je pense, est relativement légère. Mmh. Et des passages très drôles. Mmh. Donc pour ceux qui avaient été effrayés par le format du premier Charles, celui-ci est plus court, nettement plus court.
Oui, c'est un roman de 200 combien 220 pages.
Oui, contre 460 pour le premier. Ouais. Et puis cette fois-ci, on entre directement dans l'action. Mmh. Parce que des personnes m'avaient dit que... Enfin, dans le premier Charles, j'avais pris le temps d'expliquer qui était ce personnage. J'avais raconté son enfance, sa jeunesse, ses amours manqués. Alors, ça avait plu à certaines personnes. D'autres avaient dit, c'est dommage. On aurait préféré que l'action commence dès les premières pages. C'est le cas dans ce livre-là.
Très bien.
Bon, c'est difficile de parler d'un livre qu'on a écrit soi-même. Je préfère parler.
Mais je ne m'adresse pas à la critique littéraire qui vient de temps en temps griffer les auteurs dans l'émission Marque Pas. Je m'adresse là. À l'écrivain. L'écrivain, non l'écrivain, c'est pas bon.
Oui, j'aime pas l'écrivaine.
Ouais, à l'écrivain qui a écrit les aventures de Charles II. T'as commencé là, Charles III ?
Il est fini.
Il est fini, Charles III ?
Oui, mais avant...
Sans aucune relation avec le Charles III de...
Non, rien du tout.
Le duc Lorrain.
Non. Et d'ailleurs, juste une petite précision, on peut tout à fait lire Charles II si on n'a pas lu Charles I. C'est totalement indépendant.
On le trouve où, Charles II ?
Charles II...
les ailes rouges.
Oui, les ailes
avec
rouges.
Avec un très joli dessin, d'ailleurs, sur la première de couverture d'une maison qui semble une belle maison de maître avec des ailes. Elle a des ailes rouges, la maison.
Oui, ça s'expliquera.
Qui est-ce qui a fait ce dessin
C'est moi, là, c'est une petite aquarelle.
C'est toi
Oui. C'est bon, elle vaut ce qu'elle vaut.
Hein, elle est douée, la petite. Hein.
Mais on le trouve sur les sites Chapitre, Amazon. Sur Amazon, il y a des délais assez longs, mais sur Chapitre, des sites, il y a quelques exemplaires en vente à la FNAC à Nancy. Mmh. Et puis, on peut le commander dans les librairies.
Voilà. Ariane Perdigal, Les ailes rouges, c'est le deuxième chapitre des aventures de Charles, qui a mûri un petit peu.
Oui.
Merci.
Merci de m'avoir fait cette surprise.
on va passer, si tu veux bien, un tout petit peu de musique, et on reparlera, on reviendra à nos coups de cœur. Moi, j'en ai un donné, t'en as sûrement aussi. Oui. Eh bien, je te propose d'écouter une jeune femme très particulière qui s'appelle Flo, F-L-O-W. Je la connaissais un tout petit peu et je l'ai découverte dans son spectacle à Barjac, au festival de Barjac cet été. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a plein de choses à dire. Alors on écoute Flo, Les petites figures.
« Y en a qui ont la tête creuse, qui souvent y courent le vent. Y en a qui ont la tête creuse d'un grand silence retentissant. Y en a qui ont la tête si creuse qu'on pourrait y mettre tout dedans, mais l'idée n'est pas très fameuse. Tout s'enfuirait immédiatement. Puis y a les petites figures, celles qui vivent en bas de chez nous. Y a les petites figures comme les rats de nos égouts. Y a les petites figures qu'on voit carrément pas du tout, qui ferment leur gueule sur leurs blessures, qui avancent malgré tout. Y en a qui ont la tête vide à force de l'avoir trop remplie. Y en a qui ont la tête vide, trop de souffrance, trop de conneries. Y en a qui ont la tête si vide parce qu'on ne leur a jamais dit qu'il y a bien mieux que le suicide, même s'il peut être long comme une vie. Il y a les petites figures, celles qui vivent en bas de chez nous. Il y a les petites figures comme les rats de nos égouts. Il y a les petites figures qu'on voit carrément pas du tout, qui ferment leur gueule sur leurs blessures et qui avancent malgré tout. Y'en a qui ont la tête pleine de certitudes autogérées. Y'en a qui ont la tête si pleine qu'ils n'ont pas le temps de penser à laisser la place à je t'aime dans le dédale de leurs projets. Et y'a les petites figures, celles qui vivent en bas de chez nous. Y'a les comme les rats de nos égouts. Y'a les petites figures qu'on voit carrément pas du tout, qui ferment leur gueule sur leurs blessures et qui avancent malgré tout. J'suis rien qu'une petite figure qui habite en bas de chez vous. Rien qu'une petite figure comme un rat de vos égouts. Rien qu'une petite figure qu'on voit carrément pas du tout, qui fermera sa gueule sur ses blessures et qui avancera malgré tout.
Et bien voilà, c'était Flo. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs du festival de Barjac. Ariane Perdigal est avec moi ce soir dans Marque Page pour parler des livres que vous pouvez vous offrir en ces périodes de fêtes de fin d'année.
Tu disais que tu avais un coup de cœur.
Tu veux un coup de cœur?
Ah oui. Ou si tu as un coup de griffe, je suis preneuse aussi.
J'ai pas de coup de griffe, j'ai un coup de cœur.
Ouais, non, c'est moi la méchante.
Alors oui, c'est drôle de la. Moi, je suis pas méchante. Alors c'est un roman qui s'appelle Sous le soleil de la soie, et l'auteur est Éric Maréchal. Et Éric Maréchal est pharmacien à Vittel. Vittel, la ville d'eau, hein, dans les Vosges, là-bas. Et c'est pas son premier bouquin. Et il avait un premier roman qui s'appelait Influenza. Influenza, je ne sais pas si tu connais.
Oui, c'était... oui, j'en ai entendu parler.
Oui, ça remonte à 2009, qui avait fait un petit succès. Et Éric Marchal revient avec un roman qui s'appelle « Le soleil sous la soie ». Alors, « Le soleil sous la soie » nous amène en 1694 et le duché de Lorraine est sous l'occupation française. Et Nicolas Deruet, un jeune et brillant chirurgien, il est accusé de meurtre. Hein. Il a une réputation un peu sulfureuse qui s'accroche à ses basques. Et il doit se tirer de Nancy, il doit fuir Nancy. Et il rejoint les armées impériales qui luttent contre les Turcs. Et il ne peut revenir parce qu'il y a des traités qui vont réguler un petit peu tout ce qui se passe dans cette Europe de l'époque, hein, cette Europe de la fin des années de, entre 1690 et 1700, quoi, hein, on est à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe. Et il ne pourra revenir en Lorraine que lorsque les territoires de Lorraine seront rendus au duc Léopold. Et il va reprendre des activités médicales et ses interventions, ce qu'il a vu, ce qu'il a rencontré sur les champs de bataille, notamment contre les Turcs, vont lui permettre d'apporter un certain savoir sur, bien sûr, la façon dont notre corps est bâti et comment le soigner. Et en plus de ça, bon, il va devenir l'amant d'une belle marquise. Enfin, c'est vraiment un roman foisonnant. Et donc, Éric Marchal, qui a une formation médicale, puisqu'il est pharmacien et qu'il a une formation médicale aussi, il nous ramène donc dans cette époque, avec beaucoup d'anecdotes, et il va nous faire partager un petit peu les progrès que peut faire la médecine à cette époque, donc de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe. On va presque avoir des recettes médicinales à certains moments, parce qu'il y a des moments où il est sûr de ce qu'il va entreprendre, et puis il y a des moments où il ne sait pas très bien, quoi. Les progrès de la médecine ne sont pas suffisants à l'époque, et il va être très empirique et se planter complètement. Donc on a à la fois les doutes, les certitudes, les erreurs de cet homme. Et puis c'est aussi un sacré gaillard, hein, parce qu'il aime la belle vie, il aime la bonne vie, il aime les belles femmes, enfin voilà.
Et les aspects médicaux sont réalistes ? Enfin, c'est
oui,
documenté, c'est...
Oui.
Ah ouais. Ouais.
Donc c'est un livre qui s'appelle « Le soleil sous la soie ». C'est monsieur Éric Marchal. Alors c'est un gros bouquin, hein, ça fait 620 pages. Et cette je ne trouve plus les éditions, mais je vais le retrouver. Donc sachez que ça s'appelle Le soleil sous la soie. C'est chez Anne Carrière, voilà, c'est aux éditions Anne Carrière, et on doit ça à Éric Marchal. Bouquin, un gros bouquin, mais c'est un gros pavé qu'on peut offrir à lire pendant les vacances de fin d'année, pendant la période de la trêve des confiseurs.
Oui, puis c'est un bonheur d'avoir un livre.
C'est l'histoire d'un Lorrain.
Oui, en plus.
Hein,
ça, c'est l'argument définitif.
C'est l'histoire d'un Lorrain. Bon.
Non, mais c'est un bonheur d'avoir un gros livre, parce que de le retrouver chaque soir et de pouvoir s'y plonger des heures et des heures, des heures durant, c'est très bien, un gros bouquin.
Ouais.
C'est donc offrez ça plutôt que Limonov.
Voilà, donc avec Limonov, donc vous offrez ce très beau bouquin d'Éric Marchal. À toi.
À moi.
Voilà.
Alors moi j'ai toujours besoin de mes fiches. J'ai pas d'ordinateur. Alors moi je voulais juste parler d'un roman.
Elle est jalouse parce que j'ai un ordinateur.
Bah oui, moi j'ai que du papier, de mauvaises impressions, enfin bon. Ah là là, on me brime ici. Donc un livre qui s'appelle Mausolée, qui est sorti il y a un an et demi, deux ans, tu en as peut-être entendu parler. Alors, c'est encore un nom compliqué. Ça a été écrit par une Bulgare qui s'appelle, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Rouja, le prénom, Lazarova. Donc là, c'est simple quand même. L-A-Z-A-R-O-V-A, Ruja Lazarova, mausolée. Donc c'est une jeune bulgare, enfin une jeune, elle doit avoir 45 ans, qui décrit dans un livre plein de tendresse, plein d'humour et en même temps très lucide, la vie du peuple en fait sous le régime communiste bulgare. Et du coup, on découvre la façon dont vivait le communisme, les gens qui n'étaient pas au courant des aspects politiques, qui se contentaient de subir les choses et qui finalement vivaient surtout dans le silence, parce que ils savaient que pour rester vivant, pour ne pas aller en prison, pour continuer à pouvoir vivre, il fallait surtout se taire, quoi qu'il arrive. Et puis dans la répétition, c'est-à-dire que de génération en génération, on vivait exactement les mêmes choses. Et puis que la répétition, de toute façon, était l'essence du régime. Je dirais, chaque année, revenaient les mêmes marches militaires, les mêmes slogans, les mêmes... Donc, comme ça, une cinquantaine d'années se déroulent avec une certaine discipline, une retenue permanente dans la vie quotidienne. Et ces 50 années sont décrites à travers l'histoire de trois générations. L'auteur étant la petite fille de 8 ans, elle se décrit à cet âge-là. Elle décrit donc ce qu'elle vit à l'école, etc., ce qu'a vécu sa mère. Et c'est très très intéressant parce que là, ce n'est pas la grande histoire. C'est vraiment la vie du peuple sous ces régimes-là. Et c'est écrit de façon vraiment agréable et... Voilà, très très tendre, très très et lucide aussi. Donc, Ruja Lazarova, mausolée, c'est chez Flammarion.
Allez, on arrive à la fin de l'émission. On va répéter à nos amis les livres que nous avons aimés. Alors, toi par exemple, vas-y, dis-nous. Alors donc, le premier.
Donc le petit bijou, c'est Camille Petrescu. Dernière nuit d'amour, première nuit de guerre.
Oui.
Donc ça, une véritable merveille. Si vous voulez du fantastique, du suspense et beaucoup d'humour, La légende de Pendragon de Antal Zerb. Retenez le titre, La légende de Pendragon. Donc très facile à trouver, hein, ça c'est tous ces livres sont disponibles partout en librairie, etc. Mausolée, donc si vous avez envie de savoir comment vivait le peuple sous un régime communiste en Bulgarie, le petit peuple, voilà, ce qui est un peu de curiosité à cet égard.
Faire.
Et Une saison à Venise.
Une saison à Venise, donc, ce petit livre.
Sur l'enfance, les rêves de l'enfance et la façon dont les enfants arrivent à réaliser leurs rêves en dépit de ce que font les adultes et notamment en dépit des adultes qui font la guerre.
Ah, voilà un choix éclectique, l'amour, la guerre, l'enfance, la poésie, la dureté de la vie d'aujourd'hui et de celle des moments de guerre. Bravo, beau choix. Alors moi, si tu veux bien, je vous ai parlé de ce Soleil sous la soie d'Éric Marchal, hein, c'est les aventures de ce monsieur Nicolas Desruets qui était pharmacien, médecin, enfin il était un peu tout à l'époque, hein, même barbier, qui va partir avec les armées du duc de Lorraine du côté de la Turquie là-bas et combattre les Turcs et qui reviendra en Lorraine après. C'est vraiment un bouquin qui foisonne, hein. Je vous ai parlé également du concours des lycéens, Le domaine des murmures de Carole Martinez. Je vous ai parlé également de Retour à Quilibex de Sorge Chalandon. Excellent, magnifique petit bouquin. Et puis on a parlé de... Alors là, on s'est entre-déchiré avec Ariane sur le fameux Limonov d'Emmanuel Carrère. C'est chez Paul, P-O-L. Et puis, cerise sur le gâteau, n'oubliez pas, Charles II, Les Ailes Rouges, un roman d'Ariane Perdigal. Bravo Ariane.
Merci beaucoup Yves.
Je te remercie, je souhaite de passer des fêtes de fin d'année les plus agréables possibles. J'espère
aussi.
Que le Père Noël sera gentil pour toi.
Oh, je pense oui.
Bon,
en général,
alors, il est gentil le Père Noël.
Oui.
Bon, tant mieux. Moi, je qu'on y croit, hein. Dur comme frère.
Oh, bah, bien sûr.
Eh bien, chers amis, profitez donc de ces fêtes de fin d'année pour vous offrir des livres. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis à bientôt. Merci à Raphaël qui était à la technique. Au revoir.
Au revoir.